Oui, Yasmina, à travers vos ouvrages, à travers l'ensemble de votre œuvre, vous avez une lecture du monde. Pouvez-vous nous esquisser cette lecture du monde et ses caractéristiques que vous privilégiez?
Je crois que les peuples s'entendent parfaitement et se connaissent, mais c'est surtout les interprétations erronées, les amalgames, les interventions musclées de certains gourous qui font que d'un seul coup, on commence à se méfier des autres. Moi, j'ai rencontré des Français en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout. Ils étaient très heureux de vivre dans ces pays-là et ils ont réussi à s'intégrer et ils sont riches de toutes les rencontres. Mais voyez-vous, quelquefois, je dis toujours que la paix est un chômage technique et il faut impérativement des fois une tension pour essayer de faire tourner la machine. Et cette machine, justement, c'est tout ce qui crée le spectaculaire, tout ce qui crée la tension, les angoisses. Et c'est comme si d'un seul coup, les hommes ont décidé de vivre mal leur existence et de passer leur temps à se méfier les uns des autres. Et c'est dommage. Et j'interviens dans mes livres juste pour apaiser les esprits. Je présente aux orientaux ce que sont les occidentaux et vice versa. Et dans une interview, lorsque un journaliste m'a demandé c'est quoi l'Orient, j'ai dit c'est l'Occident d'en face. Finalement, on n'est que des êtres humains et heureux les êtres humains qui savent vivre pleinement leur vie, c'est-à-dire aimer de chaque religion un saint et de chaque folklore un chant. Moi, je suis dans cette façon de vivre. Moi, je m'enrichis de toutes les rencontres et de tous les gens que je croise sur mon chemin. Et la seule façon pour moi de surmonter les déconvenus et les déboires, c'est de continuer d'aimer. Je suis un être d'amour. Je sais que ce n'est pas facile de continuer d'aimer. D'un autre côté, je me dis, je me le répète, le plus grand sacrifice, ce n'est pas de mourir pour une cause, mais de continuer d'aimer la vie malgré tout. Et je suis dans cet adage coréen.
Vous travaillez indirectement à travers vos romans, à travers tous vos ouvrages, à l'interculturalité, à l'écoute des uns et des autres, non?
Ben, c'est ce que j'espère faire aboutir. Mais en même temps, vous savez, quand on est un écrivain connu, salué, en même temps, on dérange certaines consciences qui découvrent qu'elles n'en ont pas. Et ça crée vraiment des hostilités stupides qui chahutent un petit peu tous ces élans de générosité. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Si vous allez sur le web, vous allez voir comment je suis traité par les miens, par certains milieux. On dit que je suis un plagiat, que c'est pas moi qui écris mes livres, parce qu'on profite justement de l'ignorance de la majorité pour véhiculer n'importe quelle allégation, n'importe quelle diablerie. Mais en même temps, mon travail, chaque fois, cette constance dans ma générosité, cette transcendance dans mes écrits, de livre en livre, essaye justement de faire face à ces attaques qui ne sont pas logiques finalement, qui nous installent dans la diablerie naturelle des hommes.
Vous savez, Yasmina, ces attaques ne sont connues ou résonnent plus ou moins à Paris et dans certains milieux, mais en province où les gens vous écoutent, ils captent très vite l'écrivain, l'auteur et l'humain que vous êtes, et tout
mais
cela...
Je n'en doute pas une seconde. Moi, j'ai du chagrin pour les gens qui ne savent pas apprécier. J'écris quelque part, il est des gens qui, si on venait à étaler sur leurs yeux toutes les splendeurs de la terre, ils ne verraient que leur propre laideur. Et je les plains, parce que c'est un strabisme qui les éloigne d'eux-mêmes, de leur propre réalité, qui les en camisole, si vous permettez le mot, qui fait d'eux des otages absolument insécurables. Et c'est triste pour eux. Moi, ma chance, c'est que j'aime lire, j'aime aller au cinéma, j'aime feuilleter des bandes dessinées. Voilà, tout ce qui... Pour moi, la vie, c'est un aquarium pour celui qui sait la regarder et qui est apte à s'émerveiller. Depuis que j'étais enfant, j'étais obligé de regarder le mur comme un écran sur lequel défilaient tous mes rêves. Bien que mais ce mur, pourtant, c'était les murailles de l'enceinte où j'étais enfermé enfant. C'était l'enceinte d'une forteresse médiévale. interdisait d'écouter le bruit de la circulation, qui m'isolait complètement. Mais grâce à cette volonté de merveille monde, à cette façon d'y appréhender un peu le monde, j'ai réussi quand même à rester dans la générosité et non pas dans le rejet immédiat de tout ce qui pourrait me rendre heureux.
Comment faites-vous, Yasmina, avec votre notoriété, vos invitations à droite et à gauche, on va dire les lieux d'honneur, etc., les médias, comment arrivez-vous à rester calme, serein, simple, distancié et avoir une vie, comme vous dites, pleine d'amour et pour l'amour?
Écoutez, quand je suis invité quelque part, généralement, c'est l'occasion pour moi d'élargir un peu l'audience de mes amours. Donc, je vais rencontrer des gens auprès desquels je pourrais m'instruire, je pourrais me découvrir davantage, construire ou dresser des perspectives saines, belles. Donc, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui bouge trop ou qui va un peu dans tous les sens.
Très bien.
Non, je suis quelqu'un qui répond uniquement aux invitations qu'il juge intéressantes pour ceux qui vont m'accueillir et pour moi-même. Parce qu'il y a aussi des endroits où les ondes que ces endroits me renvoient ne m'enthousiasment pas. Donc voilà, je préfère découvrir des pays, découvrir des mentalités, des cultures, pour essayer au moins de savoir si je suis en train de comprendre mon époque ou pas du tout. Donc c'est une façon pour moi de toujours rassurer. Mais ces déplacements ne signifient pas que je suis loin de ma famille. Parce que vous les feux d'artifice, la gloire, la célébrité, de la notoriété, la vraie carrière d'un homme, c'est sa famille. Moi, je veux rester auprès de mes enfants le plus longtemps possible.
Yasmina, il y a un autre thème qui traverse tous vos ouvrages, c'est celui de l'émancipation de la femme. Et on comprend mieux, sachant le rôle de votre femme dans votre vie, le poids et le rôle de la femme dans l'avenir du monde.
J'ai vu ma mère, par exemple, comment elle a vécu sa féminité, sa fragilité de femme, son statut de subalterne social. Et je voyais qu'elle ne méritait pas justement d'être réduite à une espèce d'auxiliaire de l'homme. J'ai vu une femme qui se battait tous les jours pour élever ses enfants seuls. J'ai vu une femme qui n'avait pas d'instruction et pourtant qui avait une poésie en elle qui dépassait celle des poètes que j'adorais. J'ai vu une femme qui croyait dans la providence alors que tout son passé n'était qu'une enfilade de déconvenus. Et je me suis dit, si la société pouvait s'inspirer de la vaillance, de la longanimité, du don de soi d'une femme, cette société ne pourrait que s'élever dans son propre estime et dans le concert des nations. C'est pour ça que je me bats pour la femme, surtout la femme arabo-musulmane ou algérienne, parce qu'elle est exclue, qu'elle n'est pas considérée comme un acteur principal d'une nation. Et c'est dommage, et c'est ce que j'ai dit partout, je vais dans le pays arabe, parce que je connais le moyen. Et je dis aux responsables, si nous sommes à la traîne des nations, c'est parce que la femme est disqualifiée. Et s'il y a autant de guerres, c'est parce que l'homme oublie d'aimer la femme. Et j'ai écrit dans Les anges meurent nos blessures, aucun champ d'honneur ne vaut le lit d'une femme. Si on pouvait seulement mériter la femme et savoir ce qu'elle représente pour nous, on s'attacherait beaucoup plus à la vie, au lieu d'aller chercher gloire sur des terrains minés.
Yasmina, dans le monde violent, ça et là, dans les turbulences du monde, comment voyez-vous l'avenir de l'humanité ?
Écoutez, elle est à l'image de son élite. Elle est à l'image de ses élites. Quand vous voyez des consciences complètement corrompues, squattées, qui sont beaucoup plus fascinées par leur image que construites par leurs idées, on se pose la question de savoir où va le monde. ce sont les intellectuels, ce sont les philosophes, ce sont les universitaires, ce sont les artistes qui construisent les nations. Mais si les vraies consciences sont complètement muselées, défigurées, assassinées, soit par les médias ou soit par la rumeur, ben comment voulez-vous que ce monde s'éveille à lui-même? C'est quoi un peuple sinon le miroir de ses propres élites? C'est quoi une humanité sinon le miroir de ses propres consciences? Alors moi je suis triste parce que quand même, quand je vois de quelle manière je suis chahuté par ceux-là même qui ont besoin de ma voix, je me dis, je ne suis pas seul dans cette situation, et si toutes les consciences de la Terre subissaient le même sort, je crois que l'humanité n'est pas prête de sortir de l'auberge. Même si elle se sentirait à l'étroit.
Yasmina, vous êtes habitée par des rêves. Quel est le rêve auquel vous voudriez consacrer votre vie, en dehors, bien entendu, de l'écriture?
Mon rêve, c'est d'être un digne mari et un bon père, et de voir mes enfants évoluer dans un monde où ils seraient capables de donner le meilleur d'eux-mêmes et où leurs efforts seront concrétisés par des choses assez gratifiantes. C'est-à-dire avoir conscience de leur utilité et être heureux justement de porter en eux cette générosité. Mes rêves sont les rêves d'un bédouin. Et chez nous, moi je n'ai jamais cessé d'être un bédouin, même si j'ai évolué dans des villes, même si j'ai traversé des pays, je suis resté un homme du Sahara. Et chez nous, il y a un adage qui dit, celui qui perd la face perd le reste avec. Et la meilleure façon pour moi de ne pas perdre la face, c'est de rester très, très utile à ce que j'aime.
Alors Yasmina, le bédouin, sachez, chers auditeurs, que son nom, vous allez le trouver dans le petit Robert des noms propres, désormais. Yasmina, puis-je vous demander la musique que vous aimeriez écouter à la fin de cette émission?
Oui, j'aimerais bien écouter de la musique algérienne. Il y a un virtuose que je veux absolument faire connaître dans le monde entier, il s'appelle Mohamed Rouane. Et quand j'écoute sa musique, quelque part, toute l'Algérie, je dis toute l'Algérie, de Ougar au Djurdjura et de l'Ouarsonis au fin fond de Tahat et des pics d'Atakor, ben toute cette Algérie recouvre sa sérénité, sa beauté et sa poésie. C'est Mohamed Rouane.
Alors Yasmina, quand vous entendrez cette émission, il y aura cette musique pour finir. Un grand merci Yasmina, et chers auditeurs, vous venez d'entendre l'un des écrivains francophones les plus remarquables de notre époque. Relisez ses livres, vous y retrouverez tant de messages de ce bédouin, car Yasmina le rappelait, il est avant tout un bédouin, un romancier, un écrivain fidèle à ses origines du désert et qui ose affronter le monde. Merci Yasmina. Avant d'écouter la musique conseillée par Yasmina, je vous donne rendez-vous en novembre avec une émission spéciale centrée sur Axel Kahn, humaniste du 21e siècle. Et puis, elle aura lieu le 28 novembre et le 26 décembre. Ça sera une émission enregistrée au Mexique, du Mexique. Merci, chers auditeurs, et au mois de novembre. Chers auditeurs, cette émission se termine par ce texte de Yasmina Kadra, issu de son livre « Les anges meurent de nos blessures ». C'est pour remercier Yasmina que je lui adresse cet extrait de ce qu'il a écrit. En regardant de près nos vies, on s'aperçoit que nous ne sommes pas les héros de nos histoires universelles. On a beau s'attendrir sur son sort ou jouir d'une notoriété qui souvent prête du talent à ceux qui ne savent pas le rendre, il y a toujours quelqu'un de plus lésé ou de plus verni que soi. Ah, si seulement on pouvait tout relativiser, la préciosité, l'honneur, la susceptibilité, la foi et l'abjuration, la menterie au même titre que la véracité. On aurait sans doute trouvé la satiété jusque dans la frugalité et mesurer très tôt combien l'humilité nous préserve de la démence.